Les mystères du Palais Royal, cinquième partie. Chapitre 40. Lorsque Philippe, revenant de Saint-Germain, arriva au château, Albéric n'avait pas encore reparu. Mais personne ne songeait à s'inquiéter de ce retard. Le vicomte, alors qu'il était chasseur déterminé, restait souvent dans la forêt pendant un laps de temps bien plus long que celui qui venait de s'écouler. Cependant, la neige tombait toujours. Le crépuscule arriva, puis l'obscurité complète et profonde. Albéric ne rentrait pas. On commença à s'étonner. 2 heures se passèrent encore. L'étonnement devenait de l'inquiétude. Enfin, des aboiements sonores retentirent non loin du château. « Dieu soit béni !» s'écria le vieux comte de la Baume. « Dieu soit béni, mon fils arrive !» Mais, au bout d'un instant, un valet entra dans le salon, la consternation peinte sur le visage. Il venait d'annoncer que les chiens de M. le Vicomte arrivaient au chenil, mais que leur maître ne les accompagnait pas. Oh, alors la terreur fut au comble. Il devenait impossible de douter qu'un malheur ne fût arrivé. Philippe prouva clairement, par l'explosion de sa douleur, combien il aimait son frère aîné. Sous la conduite du jeune homme, les valets du château, munis de torches et de lanternes, parcoururent la forêt pendant toute la nuit en appelant l'absent à grands cris. Nulle voix ne répondit à leur appel. Le lendemain, les recherches continuèrent. Elles n'amenèrent aucun résultat. Il fut impossible de rien découvrir et l'on se perdit en conjectures au sujet de l'accident auquel Albéric devait avoir succombé, car la pensée d'un crime ne se présentait à personne. Blanche pleura longtemps la mort de celui qu'elle aimait. Puis, comme le cœur humain se console de tout, elle finit par se consoler. Cependant, la position de Philippe était bien changée. De pauvre cadet de famille, ayant mangé d'avance sa maigre part d'héritage, la mort de son frère l'avait rendu fils aîné, héritier d'un titre de comte et d'une immense fortune. Philippe laissa s'écouler quelques mois. Puis, quand la douleur de Blanche se fut complètement calmée, il dit à son père qu'il aimait sa cousine et qu'il ne désirait rien tant au monde que de devenir son mari. Le vieillard éprouva une joie vive à voir se réaliser son dernier vœu. Il demanda à Blanche si elle consentait à donner sa main à Philippe comme elle avait consenti à la donner à Albéric. Il se livra dans le cœur de la jeune fille un long et cruel combat. Il lui semblait qu'en acceptant l'amour de Philippe, elle allait parjurer et trahir les serments faits à Albéric. Mais l'insistance finit par l'emporter sur ses irrésolutions. Elle céda et devint la fiancée du second fils, après avoir été celle du premier. Le jour du mariage arriva. La bénédiction nuptiale fut donnée aux jeunes époux dans la chapelle du château. Philippe et Blanche, au moment où ils prononcèrent le « oui solennel », étaient aussi pâles l'un que l'autre. Cependant, ils n'avaient pas de tristesse dans leurs regards, et un sourire se jouait sur leurs lèvres décolorées. Les invités étaient peu nombreux. La mort récente d'Albéric interdisait toute réunion bruyante et trop joyeuse. Immédiatement après le repas qui suivit la cérémonie, les convives demandèrent leur carrosse et s'éloignèrent. Quand arriva la nuit, le comte de la Baume et les nouveaux époux étaient seuls au château. La soirée leur sembla longue et triste à tous les trois. Vers 11 heures, Blanche se remit aux mains de ses femmes de chambre pour sa toilette de nuit. « Dans une demi-heure, chère Blanche, lui dit tout bas Philippe, je frapperai à votre porte. M'ouvrirez-vous, ma bien-aimée ? » Blanche rougit légèrement. « Je n'ai plus le droit de ne pas vous ouvrir, » répondit-elle en souriant. « Quoi ? Le droit seulement ? » murmura Philippe. « Ni le désir, » ajouta Blanche d'une voix plus basse encore. Et elle s'enfuit. 5 minutes ne s'étaient point écoulées que déjà la jeune épouse, vierge encore, avait achevé sa toilette de nuit, qu'elle renvoyait ses femmes et qu'elle attendait, le cœur palpitant, le sein ému. Quelques minutes encore se passèrent qui lui parurent longues, comme des heures. On frappa doucement à la porte. « Qui est là ?» demanda Blanche d'une voix tremblante. « L'époux qui vient, plein d'espoir et d'amour, » répondit celui qui frappait. Par un sentiment d'exquise pudeur, Blanche éteignit les bougies des candélabres. La chambre ne se trouva plus éclairée que par une veilleuse, caché dans une lampe d'albâtre suspendue au plafond. La clarté de cette veilleuse rendait les ténèbres visibles, mais ne les dissipait pas. Blanche, alors, fit glisser doucement les verrous. La porte s'ouvrit. Un homme l'étreignit aussitôt, la serrant d'une main contre son cœur et de l'autre repoussant les verrous qu'elle venait de tirer. « Comme vous avez froid !» murmura Blanche en frissonnant. « Tu me réchaufferas dans tes bras !» répondit une voix passionnée. « je t'aime, et depuis bien longtemps. Je t'aime, et tu es enfin à moi. Viens, viens !» Soudain, Blanche, échevelée, demi-nue, se dressa sur sa couche avec un cri d'épouvante. On frappait à la porte de la chambre. « Qui est là ? Qui frappe ainsi ? » cria Blanche. « L'époux qui vient plein d'espoir et d'amour, » répondit-on depuis le dehors. « Entends-tu ? Entends-tu ? » murmura Blanche à demi-folle de terreur en saisissant la main de celui qui partageait sa couche. Cette main lui parut glacée. La jeune femme s'élança hors du lit et courut à la porte. « Parlez, » dit-elle. « Parlez encore, répétez-moi qui vous êtes. »« Je suis ton amant, ton époux. Je suis Philippe. Chère Blanche, ne reconnais-tu pas ma voix ?» Blanche passa sa main crispée dans ses cheveux épars avec ce geste particulier aux gens dont la raison s'égare. Puis elle arracha les verrous plutôt qu'elle ne les tira. Elle saisit Philippe par la main, car c'était bien Philippe qui venait d'entrer, et l'entraînant jusqu'au lit, elle balbutia en lui montrant une forme humaine qui se dessinait vaguement dans les demi-ténèbres. « Qui donc est là ? Qui donc est là ?» À ce moment précis, une flamme ardente et lumineuse comme un éclair jaillit de la veilleuse suspendue au plafond. Une clarté fulgurante et fugitive illumina la chambre jusque dans les recoins les plus perdus. Blanche et Philippe fixèrent sur le lit leurs regards effarés. Tous deux alors virent et reconnurent un cadavre, celui d'Albéric, le front troué par une horrible blessure d'où s'échappaient encore quelques gouttes de sang. Sur l'oreiller, un oiseau noir battait des ailes. Le lendemain de cette étrange nuit de noces, on trouva deux corps étendus sur le parquet de la chambre à coucher. Philippe était mort. Blanche n'était qu'évanouie. Le cadavre avait disparu. Lorsque Blanche revint à elle-même, elle espéra d'abord qu'elle venait d'être le jouet de quelque épouvantable rêve. Vain espoir, hélas ! La mort foudroyante de Philippe ne confirmait que trop l'horrible vérité. Tout bonheur en ce monde était à jamais fini pour la malheureuse jeune femme. Le souvenir de la scène hideuse que je viens de te raconter la poursuivait partout, sans trêve et sans relâche. Et ce n'était pas une vision. Sans cesse, elle sentait sur ses lèvres l'empreinte glacée des lèvres du spectre. Comment douter d'ailleurs de la réalité terrible de ce qui s'était passé? Les monstrueux embrassements d'un mort avaient porté leurs fruits. Blanche allait être mère. 9 mois après la nuit horrible, Blanche mit au monde un enfant. Elle se prit à chérir ce fils mystérieux comme la seule créature qu'elle pût désormais aimer sur la terre. Les années se passèrent. Le vieux comte de la Baume était mort depuis longtemps, laissant toute sa fortune à son petit-fils. Albéric, Blanche l'avait ainsi nommé, Albéric grandissait. Il était beau, mais d'une pâleur étrange. Si grande était cette pâleur qu'on eût dit que le sang ne circulait point sous le tissu transparent et satiné de sa peau. Albéric n'avait ni la gaieté, ni la vivacité turbulente des enfants de son âge. Il recherchait l'isolement et le silence. Souvent, il descendait dans les caveaux consacrés qui gardaient depuis des siècles les tombes des seigneurs de la Baume et de ceux de leur race. Là, il lisait et relisait sans cesse les inscriptions tracées sur chaque pierre tumulaire, semblant chercher un nom qu'il ne trouvait pas. Puis il entrait dans la chapelle, il s'agenouillait devant l'autel, il cachait sa tête dans ses mains. Et là, prosterné, il pleurait longtemps et avec une sombre amertume. « Pourquoi pleurer ainsi, mon enfant ?» lui demandait parfois sa mère. Il répondait « Je ne sais pas. » Blanche, ne voulant se séparer de son fils que le moins possible, le faisait coucher dans une chambre attenante à la sienne. Une nuit, 10 ans jour pour jour après la naissance de l'enfant, Blanche se réveilla en sursaut. Minuit sonnait. Blanche prêta l'oreille. Il lui semblait entendre 2 voix dans la chambre où couchait son fils. L'une de ces voix était celle de l'enfant. L'autre était trop basse pour qu'il fût possible à Blanche de la reconnaître. « Albéric, demanda-t-elle, tu n'es pas seul ? « Non, ma mère, » répondit l'enfant. « Et qui te parle ?»«
C'est mon père. »
Blanche sentit une sueur froide mouiller la racine de ses cheveux. Elle s'évanouit. Le lendemain, elle interrogea Albéric. Il ne se souvenait de rien. Chapitre 41. La fête des morts. Cette même année, vers la fin de l'automne et le jour de la fête des morts, par un temps froid, gris et sombre, Albéric s'approcha de sa mère et lui prit la main.
« Que veux-tu, mon pauvre enfant ? » lui demanda la jeune femme.
« Voulez-vous venir avec moi, ma mère ?»«
Où ? » ?»«
Dans les bois. » »«
Et que veux-tu faire dans les bois ?»
L'enfant ne répondit point à cette question. Seulement, il reprit et d'un ton presque suppliant.
« Ma mère, venez avec moi, je vous en prie. »
Blanche ne savait rien refuser à Albéric. Elle s'enveloppa dans une pelisse et elle dit « Allons !» Un pâle sourire vint aux lèvres de l'enfant. Tous deux s'enfoncèrent silencieusement dans la forêt dépouillée de feuilles. Albéric s'engagea dans un dédale de sentiers, sans manifester jamais la moindre hésitation à l'endroit du chemin qu'il venait de prendre. Blanche finit par s'étonner de cette assurance.
« Où donc me conduis-tu » demanda-t-elle.
L'enfant s'arrêta. Il regarda sa mère avec une expression étrange. Puis il dit « Mon père est revenu me voir cette nuit. »
« Ah !» murmura Blanche.
L'enfant poursuivit. « Il vous demande, ma mère. »«
Alors, c'est près de lui que tu me conduis ?»
L'enfant fit un signe affirmatif. Blanche joignit ses deux mains et les éleva vers le ciel.
« Soyez béni, mon Dieu, » murmura-t-elle. « Soyez béni si c'est la fin de ma longue douleur. »
Et elle continua à suivre son fils qui marchait de plus en plus rapidement. Enfin, l'enfant s'arrêta. La mère et le fils avaient en face d'eux une chaumière abandonnée, dans un état de délabrement étrange, et dont un amas de pierres entassées masquait l'ouverture étroite.
« C'est ici, ma mère, » dit l'enfant.
Et il commença à enlever une à une les pierres qui condamnaient la porte. Quand cette porte fut libre, il se tourna vers Blanche et lui dit
« Venez, ma mère. »
Blanche passa. Le corps d'Albéric était étendu dans cette masure, comme au jour où Philippe lui avait brisé le crâne d'un coup de pistolet. On eût dit qu'il était mort depuis une heure à peine. Près de son visage, un corbeau, posé sur une pierre, semblait dormir la tête sous son aile. L'enfant rassembla les pierres qu'il avait enlevées et mura la porte en dedans.
« Me voici, mon fiancé, me voici, mon époux, » dit Blanche en appuyant sa tête pâle sur la poitrine du cadavre.
Les deux bras du mort se soulevèrent lentement et se nouèrent autour de la taille de Blanche. L'enfant s'étendit aux pieds de son père. La nuit suivante, un ouragan terrible et tel que de mémoire d'homme on n'en avait pas vu de semblable se déchaîna sur la contrée. Une rafale, ou plutôt une trombe, enleva le toit de la masure et en dispersa les murailles. On trouva les trois cadavres et on les ensevelit en terre sainte. C'est depuis ce jour, ou plutôt depuis cette nuit-là, que le château de la Baume eut des hôtes funèbres. Les deux frères, l'épée à la main, s'y vinrent disputer la possession de cette Blanche qu'ils avaient aimée tous les deux. La scène terrible du duel et de l'assassinat fut jouée chaque nuit par des spectres, tandis qu'un oiseau noir décrivait autour d'eux de grands cercles dans l'air, en poussant des croassements rauques. Et voilà pourquoi le vieux manoir, qui n'appartenait plus à personne qu'à des collatéraux éloignés, est devenu tout à coup désert. Voilà pourquoi on l'a laissé se dégrader peu à peu et tomber en ruine, faute d'entretien et de réparation. Voilà pourquoi, enfin, il s'appelle aujourd'hui le château maudit. Émeraude se tut. Elle avait achevé le récit de la légende promise par elle à Raoul. « Et ?» demanda Monsieur de la Tremblay quand elle eut prononcé le dernier mot de son récit. « Ces croyances superstitieuses n'ont-elles maintenant rien perdu de leur force ?»«
Non seulement elles n'ont rien perdu, » répondit Émeraude, « mais encore elles ont grandi. »«
Ah ben ?» fit Raoul. « Il est vrai, » poursuivit la jeune femme, « que l'association des chevaliers de la fausse monnaie n'a rien négligé pour donner à ces utiles rumeurs un crédit nouveau et une force grandissante.
Et comment cela?
C'est bien simple. Des bruits étranges, des gémissements, le sinistre fracas de chaînes agitées, se sont échappés des entrailles de la terre. Des lueurs bizarres et inexplicables ont brillé parmi les ruines. Des apparitions fantastiques se sont montrées sur les plateformes des tours. Il n'en fallait pas davantage.
« Je comprends, » répondit Raoul.
À partir du jour où Monsieur de la Tremblée fut reconnu pour le chef de la ténébreuse association dont nous avons parlé, son existence changea complètement. Les richesses immenses mises à sa disposition firent de lui un des personnages les plus importants de son époque. Il étonna Paris par son luxe. Il se lia avec une foule de gentilshommes fort bien en cour. Et l'un d'eux, le marquis de Tianges, que nous avons vu figurer au commencement de cette histoire, le présenta à Philippe d'Orléans, régent de France. Le régent savait le nom de toutes les familles appartenant à cette haute aristocratie qu'on appelait la grande noblesse de province et qui se trouvait en opposition presque perpétuelle avec la noblesse de cour. Les La Tremblay lui étaient parfaitement connus. Ils n'ignoraient point que leur blason et leur fière devise figuraient aux plus belles pages de l'armorial de Picardie. Mais ils ne savaient pas, et ne pouvaient pas savoir, que cette famille s'était éteinte en la personne du marquis Réginald. Il accueillit donc Raoul comme un véritable La Tremblay, c'est-à-dire avec une bienveillance particulière. Raoul, en garçon d'esprit qu'il était, songea à métamorphoser cette bienveillance en une protection sérieuse, en un réel patronage. Si quelque jour un hasard malencontreux venait à dévoiler les mystères de son existence occulte et de son apparente opulence, il voulait pouvoir faire tête à l'orage en s'appuyant sur le régent. Raoul n'avait rien de caché pour Monsieur de Tianges, dont les balanciers du château de la Baume venaient de reconstituer, plus brillante que jamais, la fortune dévorée. Il le consulta au sujet de la réalisation possible de ses désirs et de ses espérances. Monsieur de Tianges savait, comme tout le monde, combien Philippe d'Orléans était curieux de ce qui se rapportait au mystère ténébreux de la démonologie et des sciences occultes. Il en dit quelques mots à Raoul. Ces quelques mots ouvrirent au jeune homme tout un horizon. La fille du diable, devenue sa femme, l'avait, nous le savons, mise au fait de beaucoup de pratiques touchant la magie, la chiromancie, la cartomancie, etc. Il résolut de se servir de ses connaissances en appelant à son aide un peu d'audace et beaucoup de charlatanisme. Le marquis de Tianges approuva ce plan et contribua à en rendre l'exécution possible et facile. Ce fut lui qui se chargea d'apprendre au régent, sous la forme d'une confidence, dont il le suppliait de ne point abuser, que Monsieur de la Tremblay, avec ses apparences d'homme du monde et de millionnaire désœuvré, était tout bonnement un des plus savants illuminés et magiciens du monde entier. Cette nouvelle surprit et enchanta le régent. Il donna l'ordre à Monsieur de Tianges de lui amener Raoul, avec lequel il eut un long entretien. Philippe d'Orléans resta émerveillé de la profonde science du jeune homme, qui, à dater de ce jour, prit sur lui une influence extraordinaire. C'est alors que Raoul, flattant les manies du maître provisoire de la France, imagina de créer une sorte de société secrète dont les liens étroits d'une franc-maçonnerie magique unissaient entre eux les membres, d'ailleurs peu nombreux. Le régent fut le chef de cette société. Les membres de cette association prirent ce nom significatif et bizarre, les fils de l'enfer. Le sceau de l'association représentait le démon vainqueur, figuré sous la forme d'un ange de ténèbres, renversant le crucifix et foulant sous ses pieds de bouc l'agneau pascal expirant. Nous avons vu Raoul faire usage de ce sceau blasphémateur lorsqu'il se croyait au moment de mourir dans la maison du petit Chastel. Sur ces entrefaites, Raoul, auquel tout semblait réussir, éprouva une profonde douleur. Émeraude mourut. Frappé subitement par un mal étrange et dont les médecins, appelés en toute hâte, ne purent deviner la nature ni indiquer les remèdes, la pauvre jeune femme succomba en quelques heures. Nous le répétons, la douleur de Raoul fut profonde, et pendant plus d'un an, il resta fidèle à la mémoire de cette amie, si charmante et si dévouée. Au bout de ce temps, Monsieur de la Tremblay, devenu seul le chef de l'association des chevaliers de la fausse monnaie, revenait en toute hâte une nuit du château de la Baume. Il voulait, sans perdre un instant, arriver au palais royal où le régent l'avait fait demander. Nous avons vu, par cette nuit d'orage, le postillon de Saint-Germain refusait de marcher. Nous avons vu le carrosse de Raoul brisé en face du petit Chastel. Nous avons vu le jeune homme mourant, recueilli dans cette demeure par Jeanne de Chambard, la touchante reine de Saba. Nous savons enfin quelles furent pour la jeune fille les conséquences de cette hospitalité, grâce à la sacrilège complaisance du marquis de Tiange pour Raoul, son complice. Il nous reste maintenant à retrouver Raoul et Jeanne, abandonnés par nous depuis longtemps. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine et dernière partie des Mystères du Palais Royal.